Bonjour.
Bonjour.
Après, voici la première question. Après la disparition du corps physique, de quelle manière l'âme survit ou poursuit une activité sur d'autres plans?
Je vous salue tous. Puisque la conversation s'engage sur ce qui est appelé comme étant l'après-vie, nous allons en parler, mais nous reviendrons de toute façon à des sujets un petit peu plus quotidiens, selon les sujets bien sûr qui vous intéressent et qui vous sont importants. Mais parlons d'abord de ce que vous m'avez demandé. Qu'est-ce en fait que l'après-vie? Parce que c'est de ça dont la question traite. Qu'est-ce que exactement l'après-vie? Si on peut s'imaginer à peu près ce que cela représente en lisant les livres ou en ayant soi-même quelques expériences de sortie, ou en ayant soi-même quelques expériences de ce qu'est l'autre côté par l'intermédiaire des rêves ou des projections, on peut se demander ce qu'est la substance de l'âme réellement une fois qu'elle est donc décorporée, hors de son corps. Car qui dit substance de l'âme va en même temps et automatiquement décrire le style et le type de vie qu'occupe cette âme dans son plan. Ce qui fait que l'on s'interroge lorsque l'on est incarné à propos de la vie qui existe de l'autre côté et ce que l'on peut éventuellement faire pour poursuivre l'évolution vient du fait que justement on ne connaît pas exactement la substance de l'âme. Si l'on connaît exactement la substance de l'âme, cette question-là ne peut pas jaillir dans l'esprit. Il y a donc, puisque question, forcément barrière. Et quelle est la barrière? Cette barrière existe, puisqu'elle fait naître la question, cette barrière existe du fait du cloisonnement des plans, du fait du cloisonnement des sections de vie, soit des diverses activités d'une conscience, qu'elle soit plongée dans la matière ou sortie de la matière. Pour bien comprendre la différence qu'il y a, et en même temps l'unité qu'il y a dans la vie physique et la vie de l'au-delà ou la vie invisible, la vie de l'âme, il faut bien comprendre ces délimitations qui cloisonnent les différents plans. Ces délimitations ne sont pas véritablement importantes au sens occulte. C'est-à-dire que ces délimitations ne vont pas forcément être intransigeantes et être comme des obstacles à la percée entre les plans ou au voyage entre les plans. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cloisons, ces voiles, en fait, car il s'agit plutôt de voiles, la substance n'est pas plus épaisse, ces voiles sont des conditionnements. Et c'est ce qui fait de ce voile une véritable cloison, c'est qu'il y a une façon très spécial d'être conditionné lorsque l'on passe à travers ce voile. Autrement dit, lorsque l'on veut se rendre en pays étranger, il faut absolument devenir tel que l'on vit et tel que l'on est dans ce pays étranger. C'est comme si lorsque vous voulez aller, par exemple, au pôle Nord, il vous faudrait absolument non seulement vous vêtir de la façon adéquate, mais en plus ressembler aux gens qui habitent, qui vivent dans le pôle, de façon à pouvoir aller dans le pays. De la même façon, lorsque l'entité humaine descend dans la vie physique, dans la matière, il lui faut absolument se revêtir d'un certain conditionnement pour pouvoir passer dans le pays. Si on ne fait pas véritablement partie du pays, on ne va pas pouvoir agir dans le pays et avoir une efficacité dans le pays. C'est pour cela que malgré toute l'apparente facilité qu'auraient certains esprits, certains guides, certains frères à travailler depuis l'invisible, à un moment donné, il devient absolument nécessaire de passer à l'incarnation pour véritablement avoir une pression sur le monde matériel, l'organisation matérielle, soit la société, soit une religion, soit un système politique ou financier, quoi que ce soit d'autre. Mais revenons à cette cloison qui sert en même temps de conditionnement. Donc, quand l'entité descend dans la matière, elle va nécessairement passer à travers ce voile, exactement comme vous passeriez à travers le rideau d'une chute d'eau, même si vous allez simplement à l'intérieur de la grotte qui se trouve cachée derrière donc ce rideau d'eau. Et si cette grotte est sèche, vous arriverez quand même mouillé parce que étant passé au travers du rideau d'eau. Donc lorsque vous vous incarnez, parce que parler de l'âme lorsqu'elle est débarrassée de son corps ne vous permettra pas de comprendre ce que je vais décrire en ce qui concerne sa vie si je ne vous décris pas d'abord sa descente dans la matière. Donc quand l'âme va s'incarner, elle va de façon incontournable se trouver en face de ce rideau de conditions, en face de ce rideau d'informations, non seulement d'informations dues à la matière, non seulement d'informations dues à l'époque même où elle va s'incarner, mais aussi dues à son propre karma et au karma collectif avec lequel elle va devoir jouer pendant toute son incarnation. Et toutes ces informations sont un peu comme des bulles d'air ou comme des étincelles, des coups de grisou si vous préférez. Et toutes ces informations s'accolent par tout simplement l'exercice d'un magnétisme qui provient directement de l'atome central de l'âme. Car c'est plutôt comme cela qu'il faut considérer l'âme, comme un petit soleil ou comme un petit atome qui a une très forte attraction magnétique, qui exerce partout pour pouvoir s'incarner, partout elle exerce cette attraction pour justement pouvoir puiser les informations, puiser le conditionnement qui lui est nécessaire pour s'incarner et aussi pour pouvoir disposer d'une mémoire, car il ne peut pas y avoir d'incarnation s'il n'y a pas la possibilité de mémoriser. Et cette faculté par là même se retrouve ensuite sur un plan physique au niveau cérébral. Mais c'est avant tout la particularité de l'âme de pouvoir mémoriser. Et c'est grâce à cette faculté d'attraction, un magnétisme attractif très puissant, que l'âme va pouvoir mémoriser, donc qu'elle va pouvoir être en relation avec sa personnalité, qu'elle va pouvoir par là même aussi s'ancrer dans sa personnalité, avoir un pont jeté entre elle et la personnalité et pouvoir puiser dans tous les événements qui vont arriver à la personnalité, pouvoir puiser les informations de façon à s'en enrichir. Donc, quand le manteau a été revêtu, car il s'agit de cela, il s'agit de revêtir un manteau d'information, un manteau de conditionnement qui dépend, comme je l'ai déjà dit, du système d'évolution dans lequel l'âme va s'incarner, de son karma individuel et du karma collectif dans lequel aussi elle va s'incarner. Une fois que tout ceci est acquis, que le manteau est taillé, à ce moment-là, c'est comme une main qui rentre dans un gant. Et c'est à ce moment-là que vous ou que l'homme traditionnel va s'éveiller à la vie. C'est au moment, en fait, où il a parfaitement revêtu le gant. À ce moment-là, sa conscience subjective, qui est la conscience de l'âme, qui est donc l'esprit, cette conscience-là va partir très loin, non pas dans l'espace, non pas dans le temps, non pas même dans la capacité d'être conscient, mais un peu comme deux planètes s'étant trop rapprochées, elles sont obligées, pour ne pas se détruire, d'ensuite se séparer, de façon à créer deux pôles. Et c'est par le jeu des forces de ces deux pôles qu'une troisième vie a lieu et que l'on va appeler ensuite la personnalité. Autrement dit, il y a l'âme dans son domaine, avec sa puissance magnétique, avec son pont jeté jusque sur la matière. Et il y a au bout la matière. La matière avec tout le code génétique, tout le code du karma individuel et du karma collectif. Ce conditionnement-là est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'il peut exister sans qu'il y ait forcément la prise de possession d'une âme. C'est quelque chose qui est vide, qui est comme une coque. Et ce qui va engendrer la vie, c'est le rapprochement des deux, puis l'éloignement des deux, qui va engendrer ce que l'on appelle la personnalité. La personnalité qui est donc à traiter aussi comme une psychologie, en fait, plus que comme la somme des données génétiques et des données karmiques, comme une psychologie, quelqu'un qui va traiter les informations venant de cette matière et venant de cette âme et qui va essayer d'y voir clair dans le jeu et d'agir clairement dans le jeu, clairement ou pas, bien sûr. Lorsque donc cette troisième personne est née, que l'on appelle la personnalité, c'est elle qui ensuite va se poser les questions. C'est elle qui ensuite va réclamer des réponses. Il faut donc faire le cheminement inverse. Quand on se pose une question, quand on est à la recherche de quelque chose, d'une intuition ou d'une réponse directe, il ne faut jamais utiliser ni le cerveau physique, il ne faut jamais utiliser même des perceptions, mais qui sont trop à rapprocher avec les sens physiques, comme par exemple des activités psychiques ou des activités de transmission de pensée ou de pénétration par la pensée dans la vérité. Il faut laisser de côté complètement toutes ces activités-là qui sont par trop des éléments de la matière. Et il faut donc se remettre complètement à l'intérieur de l'âme. C'est un exercice qui n'est pas réservé uniquement aux seuls disciples ou bien aux initiés, ni même aux gens qui sont entraînés ou qui croient à la vie de l'âme. C'est quelque chose qui est accessible à chacun, qui est faisable à tout instant. Lorsque l'on veut se placer pour avoir une réponse, lorsque l'on veut se placer à l'intérieur de l'âme, soit dans le centre de l'âme, il suffit d'avoir d'abord la connaissance élémentaire et la conviction élémentaire que l'individu est avant tout cette âme. Et c'est là où, chez beaucoup de personnes, le conflit se réveille, car beaucoup d'individus croient à l'âme, beaucoup d'individus connaissent aussi leur personnalité, beaucoup d'individus croient en Dieu ou au Maître ou à toutes ces choses de l'univers particulier de la sagesse. Cependant, en eux, il y a la conviction encore trop profonde de ne pas être assez évolué ou pas assez ouvert ou pas assez doué. En fait, ils n'ont pas la conviction profonde et véritable d'être une âme. Ils se savent être un tel, ils savent qu'un jour ils arriveront à une certaine lumière, ils savent qu'un jour ils découvriront leur âme, mais ils n'arrivent pas à être persuadés pour l'instant d'être avant tout et véritablement cette âme. Donc, pour obtenir des révélations, des intuitions ou des clichés provenant de la sagesse, il ne faut pas travailler sur la sagesse elle-même. Il faut travailler sur la connexion avec l'âme. Une fois que ceci est compris, non seulement le livre est ouvert pour rencontrer à l'intérieur de ces lignes toute la sagesse, mais en plus, une paix intérieure est installée. En plus, une dimension nouvelle est donnée à l'être. Quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous vous questionnez, quand vous vivez presque même des angoisses à propos de questions ou de textes que vous ne comprenez pas, il ne faut pas persister dans la voie de la sagesse ou dans la voie de la connaissance. Il faut vous tourner à l'intérieur et développer le contact avec l'âme. Et de ce fait, même ce qui est profondément intellectuel ou ce qui apparaît comme l'étant, parce que ne dépendant que de mots pour être exprimé et ne venant vers vous que sous la forme de mots, parce que les livres seuls pour l'instant vous sont offerts, alors pour éviter ce malaise autour de ce qui est intellectuel, eh bien, il faut simplement s'en remettre à l'âme. Et l'âme est tout intellectuelle, autant qu'elle est spirituelle. Il n'y a pas de délimitation à l'intérieur de l'âme. Il n'y a pas l'activité intellectuelle propre au cerveau physique, et il n'y a pas l'activité spirituelle propre à la vie de l'âme. Rien n'est séparé dans la vie qui est unique, dans la vie qui est un tout absolu et complémentaire. Rien donc ne peut être séparé. Ça, c'est une vision humaine. La séparativité est un projet de destruction humain. Ce n'est pas un projet divin. Au contraire, le projet divin est un projet de construction. Donc, tout va être nécessairement unité. Et même l'intellect va pouvoir être une activité de l'âme. Comment est-ce que l'on peut décrire l'âme comme étant intellectuelle sans se tromper? Je ne veux pas dire que l'âme va avoir une pensée cérébrale comme la pensée que vous entretenez à propos de tout, quand vous réfléchissez, quand vous êtes dans vos activités, ou quand même votre pensée vous échappe pour se mettre à divaguer ou à spéculer sur n'importe quoi, sans que même vous en soyez véritablement conscient. Non, ce type-là d'activité intellectuelle n'a rien à voir avec l'activité intellectuelle de l'âme. L'activité intellectuelle de l'âme va être légèrement différente. Cela se passe plutôt comme une contemplation de ce qui existe. Ce qui ne veut pas dire que tout va nécessairement être d'une passivité absolue, parce que le mot contemplation évoque la passivité, donc un peu la réception de la coupe. Or, c'est faux. L'âme peut être très active. Elle peut avoir une activité mentale, et tout à fait mentale. Et comment cela se peut? Cela se peut tout simplement parce que dans les plans cosmiques, dans l'activité cosmique, ou dans l'activité du grand être, si vous préférez cette dénonciation, l'activité mentale existe elle aussi. La pensée existe elle aussi. C'est la différence que l'on fait entre ce que l'on pourrait appeler le mental inférieur et le mental supérieur. Dans l'activité du mental inférieur, tout est spéculatif. On tourne autour d'un point que l'on ne connaît pas et l'on utilise la pensée spéculative, la pensée rationnelle, la pensée interrogative, pour pouvoir faire le tour de ce point et essayer de le comprendre, de le disséquer. Tandis que le mental supérieur, lui, va aussi trouver dans ce point un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément en savoir plus que le mental inférieur. Cependant, sa façon de procéder pour percer ce mystère va être complètement différente. La façon va être la pénétration. Tandis que le mental inférieur tourne autour comme un satellite, comme donc une chose projetée dans la création, comme une planète tourne autour du Soleil, parce qu'elle est solide, parce qu'elle est physique, et qu'elle ne peut pas faire autre chose que de tourner autour du Soleil, le mental supérieur, lui, est plutôt comme l'essence de cette planète qui tourne. Et alors que son corps solide doit garder l'orbite, doit rester satellite du Soleil, son essence, elle, au contraire, va pouvoir, comme un rayon, pénétrer l'intérieur du Soleil, ce qui est impossible pour le corps solide de la planète, sinon, tout simplement, la planète serait détruite, de même que le Soleil. Une fois que ce rayon a percé l'intérieur du Soleil, il y a rencontre avec la substance solaire. Et ainsi, le rayon va voyager du Soleil à la planète solide et transmettre les informations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui fait que l'individu peut paraître comme étant favorisé parce qu'il sait tout, ou du moins arrive à intuitionner la vérité et la profondeur, le sens des choses. Donc, quand un homme veut destiner sa vie à percer le secret de l'univers, ou tout simplement à rencontrer la réalité, la vérité simple et pure, il doit utiliser cette connexion avec l'âme et déclencher donc son essence comme un rayon pour aller au cœur des choses. Ceci n'est pas une simple théorie. Si la théorie parfois est utile, c'est parce qu'elle déclenche des images. Et l'homme arrive à travailler parfois très bien avec les images. Parce qu'ayant une image, il arrive à déclencher un fonctionnement mental. La réalité de l'homme est pratiquement et essentiellement mentale. Non pas que l'homme soit un mental depuis son étincelle la plus pure jusqu'à l'activité de son intellect la plus pratique et la plus quotidienne, mais tout simplement parce que jusqu'à un certain point de l'évolution, jusqu'à un certain point de la libération hors de la matière, l'homme est avant tout une activité mentale, pas forcément cérébrale, j'insiste sur ce point, mais mentale. C'est pour cela qu'au fur et à mesure de l'évolution, jusqu'à ce point de libération hors de la matière, il faudra que l'homme passe nécessairement par la maîtrise de son mental et par la fusion, la communion avec son mental, de façon à pouvoir bien utiliser cette énergie qui est primordiale dans l'avancement et le reste du chemin qui est à parcourir. Un homme qui ne connaît pas son énergie mentale ni ce qu'est véritablement le mental va se trouver comme freiné dans son évolution parce qu'il ne va pas pouvoir diriger les choses, prendre en main les choses et diriger surtout ce qui est le flux de l'âme. Donc nécessairement, à un moment donné de l'évolution, à un moment donné de l'ouverture du disciple vis-à-vis de son âme, il va devoir quelque part agir, peut-être pas comme un magicien, mais presque, dans le sens où il va devoir diriger les choses. Et dès qu'il y a direction, qu'il n'y a plus donc contemplation, dès qu'il y a donc acte, il y a une sorte de magie. Ce qui ne veut pas dire que l'homme devient un être magique, mais il y a une sorte de magie. L'énergie mentale est un feu qui équivaut en fait à la pensée de Dieu elle-même. Quand je parle de pensée de Dieu, c'est un concept. Je voudrais expliquer un petit peu. Je ne veux pas dire que Dieu pense ou que l'être céleste pense. Il est plus juste d'admettre ou d'essayer d'imaginer qu'il existe dans son mental des conceptions. Exactement comme il existe, par exemple, sur la Terre, des constructions. Il existe des conceptions. Et ce sont ces conceptions qui s'érigent en tant que phénomène de pensée et qui constituent ce que l'on pourrait appeler la loi. C'est ce qui fait aussi que les choses ont lieu. C'est ce qui fait que les lois arrivent à régir la matière, le plan physique. C'est ce qui fait que la création arrive à se développer, même si cela paraît de quelque chose de très compliqué. Mais cela se développe au fur et à mesure, presque comme par enchantement. Donc il ne faut pas imaginer que l'être céleste pense, mais il y a en lui des conceptions. Et lorsque l'homme arrive à développer cette même capacité, ce même plan, ou simplement il rencontre la conception, ce plan où il est la conception, il sait alors parfaitement ce qu'est le plan mental. Donc, revenons à cette âme qui descend dans la matière, qui se recouvre de conditionnement, qui se recouvre de mental. Cette âme va agir par l'intermédiaire donc de la personnalité. Il va y avoir la vie, il va y avoir les événements, les données, les informations vont circuler de l'un à l'autre. Et puis un beau jour, la nécessité d'obtenir ou de continuer à obtenir des informations, cette nécessité n'a plus lieu d'être. Ce qui se passe alors, c'est tout simplement l'arrêt de l'envoi, l'arrêt d'émission de la nécessité des informations. Cette émission provient de l'âme. C'est un peu en fait comme un radar ou comme un sonar qui envoie, des appels chaque fois, qui demande l'information, qui demande la cristallisation de telle ou telle information pour que ce soit véritablement une expérience, une donnée qui est une puissance et une réalité. Soit plus tard, plus loin, un moyen d'action. Lorsque donc cette donnée est envoyée, est émise, il y a incarnation, il y a besoin d'incarnation. Et la personnalité est mise sous pression, elle doit agir. Et si elle n'agit pas, elle sent le malaise, elle sent le mal-être, elle sent aussi parfois la dépression, elle sent l'angoisse. Et quelquefois cela peut même conduire jusqu'au suicide. Suppression donc de l'instrument qui ne répond pas, qui n'envoie pas des informations en retour. Lorsque l'âme n'éprouve plus le besoin d'utiliser cette personnalité, cet instrument, parce que tout simplement il n'y a plus besoin d'avoir des informations pour l'instant, ou soit parce que l'instrument ne peut plus correspondre au besoin d'information qui vient après et qui est par exemple beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, il y a cessation d'envoi d'émission. Donc, le radar n'envoie plus de code, le sonar n'envoie plus de son. Automatiquement, il se passe une dévitalisation qui très vite finit par dessécher les liens électriques, les liens de feu, qui sont comme des liens attachant la main du marionnettiste à la marionnette. Et dès que ces fils commencent à être desséchés, la vitalité, bien sûr, ne circule plus, et l'homme qui est au bout, et qui ne vivait que grâce à ce circuit d'énergie, commence à perdre tout ce qui était sa vie, commence à perdre sa capacité à être conscient, à se défendre mentalement, mais aussi physiquement contre tout l'extérieur. Et petit à petit, il y a la mort qui s'installe. Pour les morts qui viennent de la sorte, les morts qui arrivent de la sorte, et ceci est une bénédiction, pour les morts qui donc ont lieu de la sorte, cela est très facile de pouvoir concevoir ce qu'est le retour des informations, ce qu'est donc la substance qui va sortir de cette entité qui s'était incarnée. Lorsque un individu meurt, on a souvent tendance à dire son corps éthérique ne va survivre que 3 jours. Son corps astral peut-être un peu plus selon l'attachement. Et puis il y a lui, l'homme, elle, la femme. On ne sait pas véritablement cette substance qui forcément va retourner au divin, va forcément retourner quelque part. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui remet par là même en cause et en question tout le sens et la réalité de la vie ou de l'incarnation elle-même, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en vérité, tout ce qui est dans le corps physique, ce n'est pas l'individu lui-même. Tout ce qui est dans le corps physique et qui représente le corps physique, c'est tout simplement l'animation et le mouvement de ces données, de ces informations qui vont tantôt vers l'extérieur, tantôt vers l'intérieur, dans la direction de l'âme. Autrement dit, lorsque la mort survient, c'est vrai que le corps éthérique persiste quelque temps, que le corps astral peut persister quelque temps. Mais il ne faut pas s'attendre à voir la personne se lever de son corps, comme par exemple un double ou un fantôme, et retourner quelque part où il y a son âme, quelque part où sa zone céleste lui correspond. Et si l'on conçoit les choses de la sorte, cela veut dire que l'on conçoit aussi que l'âme s'est profondément incarnée dans sa chair, dans sa matière. Or, cela ne se passe pas de la sorte. Et j'en veux pour preuve le problème que énormément de personnes ne sont pas suffisamment incarnées. Qu'énormément de personnes ont justement un terrible problème pour méditer ou pour rester calme ou pour pouvoir se relaxer ou pour pouvoir se concentrer, ne serait-ce que pour étudier à l'école, parce que justement, l'incarnation n'est pas la projection de l'âme dans la matière pour l'instant et pour eux. Au contraire, l'âme reste très loin et joue avec sa personnalité et toutes les données qui sont dans la personnalité, exactement comme quelqu'un jouerait ou s'amuserait à faire des ombres chinoises sur un mur, de très loin et par reflet. Et c'est pour cela, en même temps, que ces individus-là sont capables d'actes parfois fort négatifs, parce qu'ils n'ont pas la conscience suffisante, la présence de l'âme donc suffisante, pour pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui leur est profitable et ce qui leur est préjudiciable. Donc quand on parle d'incarnation, on pense à la chute de l'âme dans la matière. Il est vrai que l'on peut admettre ce concept. Je ne veux pas faire des guerres de théorie ou des guerres de religion à propos de cela. C'est complètement infantile. Cependant, si l'on veut être dans la notion juste des choses, il faut savoir que ce qui habite en vous ici et maintenant, ce n'est pas votre âme qui habite votre corps. Ce qui est dans votre corps, c'est juste un certain réseau d'énergie en provenance de votre âme. D'où la difficulté pour vous-même d'être centré, d'être aligné, d'être toujours aussi spirituel que vous le voudriez, d'être toujours positif comme vous le voudriez, de pouvoir voir la vie comme vous savez que les saints arrivent à voir la vie. Tout est projection. Et qui dit projection dit que donc la partie principale va rester à sa place. Tandis que simplement des faisceaux d'énergie vont être envoyés pour siéger dans les endroits précis prévus pour cela, pour recevoir donc le lien, le cordon ombilical avec l'âme. Et ces endroits dans le corps sont très précis. C'est l'endroit que l'on appelle l'emplacement des glandes, tout simplement. À chacun de ces emplacements, il y a donc l'aboutissement d'un rayon, d'un cordon, qui, si vous arrivez à le remonter consciemment, en arrivant au bout, vous allez rencontrer véritablement l'âme. C'est pourquoi dans la méditation, il vous faut, si vous voulez véritablement avoir une méditation constructive, il vous faut nécessairement méditer sur un chakra. Un chakra qui correspond à ce moment-là de votre méditation, ou à une étape de votre vie, ou à une étape de votre évolution, qui peut donc inclure plusieurs incarnations. Ce qui fait que pendant plusieurs incarnations, vous allez devoir ou pouvoir méditer sur un chakra précis, alors que, par exemple, dans d'autres moments, vous n'allez devoir méditer sur un chakra précis que pendant quelques mois ou que quelques années. Cela dépend des transferts d'énergie qui sont à opérer. Ne pas méditer sur un chakra, c'est tout simplement ne pas connaître la connexion entre ses sièges, ses glandes, le cordon ombilical et l'âme. Dès que l'homme médite sur son chakra, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être en contemplation face à son chakra, comme certains se contemplent le nombril, par exemple. Cela n'amènera rien du tout. Mais il faut pouvoir s'intérioriser dans le chakra, s'introvertir dans le chakra, et petit à petit savoir déclencher les sons qui correspondent au chakra. Vous n'allez pas du tout être maître de ce déclenchement. Vous ne pouvez pas déclencher les sons. Vous ne connaissez même pas les sons qui correspondent. Les anciens sages indiens connaissent parfaitement ces sons. Ils sont à la base des majeurs mantras qui ont été répétés et chantés justement au cours des âges dans le pays que l'on appelle l'Inde. Donc, lorsque l'on utilise ces sons, on va pouvoir travailler magiquement sur le chakra. Cependant, pour le méditant aujourd'hui, pour le méditant actuel, il ne faut pas qu'il compte pouvoir obtenir cette connaissance. Il ne faut pas non plus qu'il attende pouvoir entendre ce son. Il va falloir donc qu'il s'en remette uniquement à la profondeur de la méditation. Et c'est la profondeur de la méditation qui va déclencher l'activité de ce son. En déclenchant l'activité de ce son qui ne va pas forcément être audible, car quand je dis son, il ne faut pas imaginer musique, il ne faut pas imaginer un son véritable. Il faut imaginer plutôt une vibration. Mais dire simplement vibration n'est pas encore assez exact, car il y a véritablement une note à l'intérieur de cette vibration. Et c'est ce qui fait la puissance de cette vibration, c'est qu'il y a une note. Autrement dit, on en revient à parler de ce que les pères de l'Église nommaient le verbe. Le verbe, c'est la vibration, mais c'est aussi une note qui est dans la vibration et qui fait que cet ensemble des deux va pouvoir être créatif. Créatif en descendant dans la matière ou créatif en remontant vers le ciel. Donc, quand vous méditez et que vous méditez profondément, et que vous essayez de faire un certain lien avec l'âme, sachez que automatiquement vous déclenchez des sons. Des sons s'échappent de vous, et plus particulièrement du chakra sur lequel vous êtes centré. Lorsque ces sons commencent à être émis, il y a dans le cœur de l'âme, dans la substance de l'âme qui demeure sur son plan, il y a exactement le même son qui vient à votre rencontre. Car tout se fait en correspondance. Tout est miroir, en fait. La personnalité peut être le miroir de l'âme, et l'âme est le miroir de la personnalité. Et il faut que dans ce jeu de miroir, les lois arrivent à s'accorder parfaitement. Lorsque donc vous faites quelque chose de ce genre durant la méditation, l'âme envoie aussitôt l'équivalent depuis sa substance. Ce qui fait que quand vous méditez, vous n'accomplissez pas seulement un acte qui monte vers le ciel, qui monte vers votre divinité, mais vous accomplissez bien aussi un acte qui vous permet de recevoir depuis le ciel, de recevoir depuis votre âme. Et c'est pour cela que la méditation paraît si constructive, paraît aussi si vitalisante, paraît aussi vous rendre rayonnant. Lorsque vous êtes rayonnant après une méditation, c'est que vous avez reçu autant que vous avez donné, autant que vous avez essayé de monter. Donc, vous êtes sorti hors de vous-même. Lorsque ces sons sont émis, vous n'êtes pas simplement entendu de votre âme. Il y a aussi toutes les autres notes qui sont les mêmes que la vôtre. Toutes les autres notes qui correspondent soit à des êtres incarnés ou des êtres désincarnés, ou des guides ou des maîtres, comme vous voulez. Des êtres de lumière, donc. Il y a aussi toutes ces autres notes qui se mettent en correspondance avec vous. Et automatiquement, comme des atomes sont attirés les uns par les autres et constituent d'un seul coup une boule immense, il y a autour de vous une magnifique aura de lumière qui se constitue. Parce que toutes ces notes qui correspondent à votre note, qui sont sur la même fréquence que votre note, eh bien, toutes ces autres notes, toutes ces boules de lumière, toutes ces étincelles d'énergie qui vous correspondent, qui sont à la même longueur d'onde, viennent vers vous et constituent autour de vous un champ magnétique, un champ vibratoire, dans lequel vous allez pouvoir continuer la méditation, qui sera alors une nourriture, et dans lequel vous allez pouvoir pratiquer votre évolution à travers les jours qui vont suivre. S'il n'y avait pas cette constitution d'une aura de vibration immédiate, la méditation serait simplement un phénomène qui vous viderait de votre substance et méditer équivaudrait à mourir. Or, il y a tout le contraire qui se présente. C'est-à-dire qu'il y a vitalisation du corps physique, vitalisation du cerveau, vitalisation des glandes. Et petit à petit, autant que la matière, autant que la personnalité, autant que ces deux pôles donc le permettent, petit à petit, il y a descente de l'âme. Autrement dit, lorsque l'on a affaire à un individu qui est jeune, sa personnalité va être rustre, grossière, et son âme très lointaine. Plus l'on a affaire à quelqu'un qui évolue et qui est évolué, moins il y aura de particules dues au plan physique, dues à l'entité collective, et plus il y aura la présence de l'âme, jusqu'à un point tel que finalement, un jour, seule l'âme et l'entier de l'âme habitera dans le corps, dans la chair. Et ce moment-là est un moment qui, tout en étant le plus fort dans l'incarnation et dans l'évolution, est en même temps le plus terrible et le plus douloureux. Le plus terrible et douloureux, non pas parce qu'il y aurait encore là une épreuve initiatique, ou parce qu'il y aurait véritablement une douleur de l'âme à être dans sa matière, mais tout simplement parce qu'au moment, comme je l'ai déjà dit si souvent, au moment où l'âme est la plus incarnée, où l'âme est la plus proche de la matière, elle doit aussi s'en séparer. Ce qui fait un peu le même tiraillement que durant l'accouchement que connaissent bien les femmes, où elles perdent l'enfant qui était attaché à leurs entrailles. C'est la naissance à ce moment-là. Et c'est la naissance de ce que l'on peut véritablement appeler l'esprit. Pour comprendre ce que je viens de dire, il faut savoir, il faut pouvoir soupçonner, intuitionner que dans sa vie substantielle, l'âme, si on peut la considérer comme divine, comme spirituelle, comme étant pur esprit, en étant justement pur esprit, l'âme est cependant dépourvue de moyens d'action, de moyens de réflexion. Pas réflexion au sens de la pensée qui réfléchit, de réflexion au sens de l'effet de miroir qui reflète. Cette capacité de réflexion est primordiale Parce que si dans un premier temps elle apporte la douleur, que vous connaissez au fur et à mesure des incarnations, la tromperie aussi du fait que l'homme ne s'identifie plus qu'à son corps ou à sa personnalité. Si donc pendant un certain temps il y a toute cette douleur, il y a en même temps un jour un point capital qui est atteint et qui justement donne le sens et qui permet de faire payer le prix à cette douleur. C'est tout simplement le point où l'homme va pouvoir, où l'entité, disons, qui s'incarne, où l'âme, va pouvoir se connaître elle-même, où elle va pouvoir dire et savoir qu'elle existe elle-même. C'est comme si, en étant pur esprit, en étant à l'origine des choses, l'âme n'avait pas le pouvoir d'identification vis-à-vis d'elle-même, et non pas simplement d'identification par rapport au cosmos, mais aussi et surtout vis-à-vis d'elle-même. Ce qui fait que, dans les premiers moments de la vie, ce que l'on appelle le pur esprit, ce que l'on appelle la pure conscience, ressemble étrangement à une zone que l'on ne peut pas qualifier pour autant d'inconscience, parce qu'elle n'est pas consciente d'elle-même, mais c'est une conscience qui dort. Pour donc rendre pleinement rayonnante et active cette unité de conscience, il va falloir la plonger à travers un processus que l'on appelle l'identification. Et cette identification ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de séparativité. Donc, si l'on ne sépare pas les unités de conscience les unes des autres, ce qui revient à les enfermer dans des bouteilles que l'on va ensuite appeler Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui n'empêche pas qu'en fait, dans ces bouteilles, il y a exactement la même substance que dans toutes les autres bouteilles, la même unité. Mais pour un certain temps, jusqu'à ce que le pouvoir soit réveillé, jusqu'à ce que l'autoconscience soit générée, il va falloir enfoncer ces unités dans la différenciation, dans l'identification, et admettre, supporter, attendre que tout le négatif de ce processus d'identification et de séparativité soit complètement écumé. Et c'est ce que l'on va appeler ensuite l'évolution. C'est ce que les hommes appellent l'évolution. C'est ce que toutes les théories occultes appellent l'évolution. C'est tout ce processus où l'esprit doit sortir du négatif de l'identification. Apprendre donc à se vivre en même temps que unité, à se vivre aussi en tant qu'identité particulière. Et comme je le dis si souvent dans la spiritualité, pour pouvoir véritablement intuitionner les choses et être sur le juste fil de la conception, il faut pouvoir balancer avec le paradoxe. Autrement dit, les choses ne sont pas forcément toutes blanches ou toutes noires, parce que l'univers lui-même n'est pas comme cela. Donc, toutes les conceptions, toutes les abstractions vont aussi dépendre de ce principe. Il ne va pas y avoir le principe, un point c'est tout. Le principe lui-même va être composé par deux pôles complémentaires. De là, justement, va naître le paradoxe. De là, justement, va naître des remarques dans l'esprit du disciple, qui va dire, mais je ne comprends pas. Ici, on me dit telle chose, là, on me fait soupçonner telle autre chose, et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se contredisent? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que donc les niveaux émettent des façons de penser tellement différentes les unes des autres? Est-ce que je dois croire donc l'initié de telle initiation, de tel degré, et laisser tomber l'initié de tel autre degré? Pour y voir clair, il faut simplement, comme un équilibriste, savoir jouer avec le paradoxe. Ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir s'amuser ensuite, par rapport à tous les textes, par rapport à tous les livres, il va falloir essayer de trouver le fil conducteur entre les contradictions. Car il y a des gens qui, malheureusement, ne connaissent rien ou ne savent que très peu ce qu'ils sont en train de dire, et ils émettent véritablement des contradictions. Donc il ne va pas falloir, sous le prétexte de vouloir jouer et avancer grâce au paradoxe, il ne va pas falloir essayer de construire une vérité sur des constructions, sur des négativités et sur des erreurs et des contradictions qui sont de toute évidence des erreurs fondamentales de l'esprit. Il faut s'en référer là pour pouvoir jouer avec le paradoxe à des textes reconnus comme étant essentiels. Et pas avec n'importe quel texte, sinon vous n'allez que vous troubler l'esprit. Mais revenons à cette âme qui est descendue, à cette âme qui essaye de descendre de plus en plus au fil des incarnations, pour pouvoir prendre complètement la notion d'identification, donc pour pouvoir se cristalliser un maximum. Puisque dans sa vie divine, elle est en fait à comparer avec un grand esprit large qui ne sait pas être divin, qui profite de sa divinité, qui vit dans sa divinité, mais qui ne peut expérimenter véritablement sa divinité parce qu'il ne peut pas dire « je suis ». La capacité de dire « je suis » vient de la cristallisation. Et cette cristallisation, l'oiseau donc qui va refermer ses ailes autour de lui, l'oiseau qui va replier ses ailes même sur sa tête, au point de ne plus savoir qu'il est un oiseau et se mettre à ramper comme un ver de terre, ce qui est le cas de la personnalité de l'être humain, cet oiseau qui replie ses ailes et qui va essayer petit à petit de descendre de plus en plus dans la matière, dans le solide, va trouver là l'occasion, par cette cristallisation, de pouvoir enfin se rencontrer. Donc il y a